Philippe Vellila, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes essayiste et spécialiste de la politique et de la société israélienne. Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons parler des remous actuels en Israël autour de la réforme du système judiciaire. On apprend que la coalition a annoncé ce mercredi après-midi l'annulation du vote de certains éléments clés du plan de réforme judiciaire fortement controversé présenté par le gouvernement Netanyahou. Ces éléments devaient normalement être votés en première lecture ce mercredi. Alors, selon vous, que signifie l'annulation de ce vote ?
C'est-à-dire que la coalition ne veut pas paraître pour refuser la proposition du président Herzog de former une commission qui pourrait aboutir à un texte consensuel. Ça ne veut pas dire qu'il renonce à la réforme et aux trois textes qui étaient sur la table, à savoir le texte sur la validation de la candidature d'Ayed Eri au gouvernement, le texte sur le contournement de la loi des lois annulées par la Cour suprême, et puis un troisième texte qui était un peu moins important. Ils ne renoncent pas, mais ils ne veulent pas passer pour des mauvais joueurs, d'autant que l'opposition a accepté la proposition du président, mais en l'assortissant d'une condition qui serait de geler pendant 2 mois les débats à la Knesset pour les transférer à une commission qui aurait pour mission d'aboutir à un texte consensuel. Donc voilà, on est plutôt aujourd'hui un petit peu dans un jeu du chat et de la souris, à savoir qui sera le meilleur joueur face à la proposition du président.
Alors effectivement, avant l'annulation de ce vote ce mercredi, le président israélien Yitzhak Herzog a appelé plusieurs fois au dialogue entre coalition et opposition en vue d'un compromis. Que peut-on espérer pour la société israélienne qu'il ressorte des discussions entre le gouvernement et l'opposition ?
Ce qu'on pourrait espérer, c'est que gouvernement et opposition se mettent autour d'une table et discutent sérieusement. Personnellement, je ne suis pas très optimiste. Il pourrait y avoir des discussions, mais pour la forme, simplement pour dire, voilà, on fait preuve de bonne volonté. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le gouvernement est très déterminé pour faire passer cette réforme, qui est plus qu'une réforme. D'ailleurs, dans la presse israélienne, on l'appelle révolution judiciaire, puisqu'on aboutirait à une confusion des pouvoirs et à un contrôle, en fait, du pouvoir judiciaire par l'exécutif. Moi je pense qu'on ira sans doute vers des conversations un peu formelles, un peu pour la galerie, j'ai envie de dire, mais de se mettre d'accord sur une réforme qui puisse satisfaire et le gouvernement et l'opposition, je n'y crois pas.
On a vu en début de semaine d'importantes manifestations et contestations en Israël, notamment devant la Knesset. On parle de 70 000 opposants manifestants devant la Knesset. L'opposition fustige la réforme en disant qu'elle va diviser le pays. Et de son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou demande aux dirigeants de l'opposition de ne pas plonger le pays dans l'anarchie. Alors Philippe Vellila, pensez-vous que cette réforme peut diviser complètement Israël et le peuple israélien ?
Alors, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle a déjà divisé. En fait, on a un Israël contre l'autre, à savoir l'Israël qui a voté pour Benjamin Netanyahou et ses alliés, et puis une autre moitié, puisque le nombre de voix était à peu près équivalent, qui est contre ce gouvernement. En fait, les choses ne vont pas se jouer sur ce terrain. Parce que là, ça ne bougera pas au niveau politique, et puis il n'y a pas d'élection à l'horizon. À mon avis, les choses vont se jouer ailleurs, elles vont se jouer sur l'économie. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou est en train de préparer un argumentaire selon lequel ce serait l'opposition qui serait à l'origine des difficultés économiques du pays, parce qu'en noircissant le tableau, elle découragerait les acteurs et notamment les investisseurs étrangers. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie est en train de connaître des difficultés que l'on n'attendait pas. La high-tech, qui est le navire amiral de l'économie israélienne, était déjà en crise. Là, ça l'est encore plus parce que la high-tech a besoin de beaucoup de capitaux étrangers et ces capitaux étrangers se raréfient parce qu'également des entreprises high-tech transfèrent leurs fonds à l'étranger. Et puis, on a appris aujourd'hui, par exemple, que les banques israéliennes, sans le dire, ont transféré 4 milliards de dollars sur des banques étrangères parce que les particuliers et les entreprises ont de moins en moins confiance. Alors, si ça devait se poursuivre et s'accélérer comme mouvement, ce serait extrêmement inquiétant. Et là, le gouvernement serait bien obligé de faire quelque chose. Mais sinon, dans l'état actuel des choses, bon, le gouvernement est à la peine, c'est évident. Mais pour l'instant, il peut résister parce que l'opposition est quand même relativement divisée. parce qu'il y a encore ces propositions sur la table de discussion et qu'on n'a pas encore fait le tour complet de ces possibilités de discussion. Mais à mon avis, ça se jouera sur un autre terrain, et notamment le terrain économique. Alors, sans oublier évidemment le terrain sécuritaire, parce que si la situation à Jérusalem et en Cisjordanie, qui est déjà bien tendue, se tendait encore plus, cela évidemment changerait la donne politique.
Alors, on parle beaucoup dans les médias israéliens de cette réforme, et on utilise souvent le terme controversé hein, concernant la réforme. Les enjeux, ils sont assez techniques si on creuse vraiment en profondeur, mais du côté des manifestants, on voit surtout des citoyens israéliens qui appellent à sauver la démocratie israélienne. Alors concrètement, si cette réforme est adoptée à un moment donné, quels seront les dangers pour la démocratie israélienne ?
Ben vous savez, c'est assez simple. Cette réforme, elle supprimerait le contrôle de constitutionnalité des lois. C'est-à-dire que la Knesset pourrait voter n'importe quelle réforme, y compris des réformes atteignant les libertés, par exemple. Le deuxième grand projet, c'est la commission de nomination des juges, qui dépendrait de l'exécutif, puisque sur 9 membres, 5 seraient nommés par la majorité, et donc les juges, du plus petit juge local jusqu'au président de la Cour suprême, seraient nommés par le pouvoir exécutif. Gideon Saar, qui n'est pas un gauchiste, puisqu'il a fait toute sa carrière au Likoud et qu'aujourd'hui il est dans un parti qui se réclame encore de la droite, mais qui connaît parfaitement le Likoud, a dit et a même écrit « Maintenant, c'est le comité central du Likoud qui choisira les juges ». Donc voilà, on serait dans cette situation, et c'est-à-dire qu'on aurait… La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, et là, on aurait une confusion à peu près totale des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et c'est donc ça qui fait dire aux manifestants que la démocratie est en danger.
Est-ce que c'est la première fois qu'on connaît ça en Israël sous un gouvernement concernant la démocratie ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans la tradition politique israélienne, il y avait quand même un relatif consensus. Par exemple, tout le monde cite cette phrase de Menachem Begin, qui un jour la Cour suprême a pris une décision qui ne lui plaisait pas, mais il a eu cette phrase historique, il y a des juges à Jérusalem, à savoir que on estimait que la Cour suprême et puis le pouvoir judiciaire avaient une autonomie et que c'était très bien comme ça, même si parfois, effectivement, ça peut déranger tel ou tel ministre ou même le gouvernement dans son ensemble. Mais il y avait quand même un consensus là-dessus. Alors évidemment, il y a des critiques de la justice, mais dans tous les pays du monde, on critique la justice. Parce qu'elle est lente, parce qu'elle est parfois incompréhensible, parce que parfois on la trouve injuste, tout simplement. Mais cela ne remet pas en cause le principe fondamental de l'indépendance de la justice. Ce qu'il faut bien voir, toute la polémique en Israël porte là-dessus. Le gouvernement dit « nous sommes la majorité » et la démocratie, c'est la loi de la majorité. Bien sûr que la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais ça ne suffit pas. Il faut la loi de la majorité, mais également d'autres éléments très importants, comme l'indépendance de la justice et la liberté de la presse. Sans liberté de la presse, vous pouvez avoir la loi de la majorité, mais ce n'est plus une démocratie.
Je repense à ce que vous disiez par rapport aux choses qui ne se joueront pas sur le terrain de la réforme judiciaire. Finalement, Philippe Vellila, pardonnez-moi la question peut-être un petit peu naïve, mais cette réforme du système judiciaire, est-ce que ce n'est finalement pas l'arbre qui cache la forêt d'un désaccord beaucoup plus profond entre coalition et opposition et puis entre citoyens israéliens ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Disons qu'il y a une partie de la société qui est très attachée au respect des formes de la démocratie, peut-être parce que elle a un peu plus conscience de l'importance de ces éléments, et puis une autre partie de la société qui est souvent composée, faut le dire, des gens qui le sont le plus en difficulté et qui ont donc tendance un peu à négliger cet aspect parce qu'ils considèrent que l'important ce serait d'améliorer leur situation matérielle, et on peut pas leur reprocher de penser ça. On peut pas leur reprocher. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien, vous l'avez esquissé, on a bien une division de la société entre des gens qui ont une vision assez claire de leur situation parce que leur situation personnelle est assez satisfaisante, mais ils voudraient que le pays aussi se porte bien, et puis des gens qui ont une situation personnelle parfois un peu plus difficile et qui pensent qu'il faut d'abord s'occuper de cela. Mais c'est aussi la faiblesse de la coalition à l'heure actuelle, parce qu'elle va pas pouvoir pendant des mois et des années mettre en avant ce type de réforme dans son électorat, qui est un électorat populaire. Il pense de plus en plus que c'était pas la priorité, La priorité, c'était plutôt la cherté de la vie, par exemple. C'était plutôt la cherté du logement qui atteint notamment les jeunes couples et les familles modestes. Donc voilà, et le gouvernement également joue gros sur cette affaire, mais il faudrait pas qu'il fasse durer le jeu un peu trop longtemps.
Merci beaucoup Philippe Vellila d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci
sur
à vous.
Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes essayiste et spécialiste de la politique et de la société israélienne. Merci beaucoup pour vos éclairages. À bientôt.
Et je viens de publier un livre sur l'histoire de la gauche française qui s'appelle La gauche a changé. C'était publié chez L'Harmattan le mois dernier.